Bonjour à tout le monde. C'est un vrai plaisir d'être ici avec, au moins en esprit, Albert Einstein, qui donne une conférence au Collège de France en 1922. Alors, et c'est un honneur de partager cette possibilité avec Einstein lui-même. Je ne sais pas s'il parlait des analogies de Douglas Hofstadter, peut-être, qui sait. Eh bien, bon, ok. Je vais commencer en vous parlant de... Je vais vous raconter beaucoup d'histoires. Beaucoup d'histoires qui ont à voir avec la façon de penser d'Einstein. Et peut-être que j'ouvre avec une citation de la plus belle biographie que j'ai jamais lue de qui que ce soit. C'est-à-dire, ça, c'est Albert Einstein. C'est la biographie qui existe d'ailleurs en français, qui s'appelle, mais malheureusement épuisée, mais probablement en anglais aussi, par son collègue Banesh Hoffman, H-O-2-F-M-A-2-N, et c'est une biographie vraiment extraordinaire que j'admire tellement parce que Hoffman avait travaillé avec Einstein pendant les années, si je ne me trompe, 30, peut-être 40, et il avait vraiment saisi à fond la façon dont pensait Einstein. Et dans cette biographie, il parle non seulement de la vie d'Einstein, mais il se concentre sur la façon de penser d'Einstein. Il s'est vraiment rentré dans la mentalité de ce physicien génial, le plus génial probablement de tous les physiciens de tous les temps. Et Hoffman a un don pour exprimer ce qui se passait dans les coulisses. Et donc, je vais vous donner, même si c'est hors contexte, alors vous allez, je vais vous lire quelque chose, vous allez le dire vous-même, et vous allez voir comment il s'exprime. Et puis, au cours de cette conférence, vous allez voir exactement ce dont il parle ici. Mais juste pour vous donner la saveur de ce qu'il dit. Alors, il y a deux citations qui viennent de différentes parties du livre. Alors, Albert Einstein, créateur et rebelle. Alors, il dit, et vous n'avez pas besoin de comprendre en ce moment, plus tard vous comprendrez exactement ce dont il parle, mais c'est juste pour comprendre cette idée. À ce moment-là, en particulier vers la fin de son premier article sur E égale MC2, à l'automne 1905, Albert Einstein, inspiré, voilà en bleu, par son instinct, c'est amusant, par son instinct d'unité cosmique, laissa nonchalamment échapper une remarque pénétrante et d'une importance énorme, à savoir le fait que l'énergie dégagée par l'objet prenne une forme électromagnétique ne peut évidemment jouer aucun rôle dans la perte d'un peu de la masse du dit objet. C'est-à-dire, là, il parle de l'instinct cosmique d'Einstein pour une sorte d'harmonie. Et vous allez voir très bientôt exactement ce qu'il veut dire. Et puis, peut-être encore plus important, il y a cette autre citation qui m'a vraiment stimulé, inspiré. En fait, la dernière fois, je vous ai parlé du livre qu'on prépare avec Emmanuel Sander. En français, le titre sera « Surface et profondeur » et sur l'analogie. Et le dernier chapitre est consacré à l'usage des analogies en science et surtout en physique et surtout les analogies d'Einstein. Et donc cette citation, ce passage m'a beaucoup inspiré quand je l'ai lu. Et j'ai mis beaucoup de temps à y penser. Alors dans son article de 1905, c'est-à-dire sur la relativité, pas son premier article sur la relativité restreinte, son deuxième article où il exprime pour la première fois cette équation très célèbre, Einstein avait déclaré que toute forme d'énergie possède de la masse. Mais même pour lui, il fallut encore 2 ans avant d'arriver à la réalisation bouleversante que le contraire devait être le cas aussi, à savoir que toute forme de masse doit posséder de l'énergie. Il fut amené à cette conclusion par des raisons esthétique. Pourquoi trancher nettement entre, d'un côté, le type de masse qui appartient intrinsèquement à un objet donné et, d'un autre côté, le type de masse qu'il perd quand il dégage de l'énergie. Faire ainsi serait imaginer, sans aucune motivation, deux types de masse, alors qu'un seul type suffirait. Une telle dichotomie serait inélégante et privée de toute défense logique. Il met le mot « logique », je ne sais pas si c'est le mot juste, de toute défense intuitive, moi je dirais pas logique, c'est une défense esthétique. Il s'ensuivit dans la tête d'Einstein qu'à toute forme de masse était nécessairement associée de l'énergie. Et c'était un jugement esthétique, un jugement basé sur l'harmonie de la nature. Ça, c'est pour vous donner la saveur de la pensée d'Einstein, la saveur à au moins... tel que Banach-Hoffmann la représente. Et maintenant, on va commencer avec quelque chose de très terre à terre. Voici des croissants. C'est une assiette de croissants qui viennent tous de la même fournée. Alors, si j'en prends un et j'y goûte et je dis « Ah, ces croissants, ils sont bons !» Alors, est-ce que j'ai raison de faire ça? Est-ce que j'ai raison de dire, en mangeant juste un croissant, que tous les croissants sont bons? Alors, tout le monde penserait, bien sûr, c'est évident, oui, les croissants, ça vient de la même fournée. Alors, bien sûr, oui. Mais c'est une sorte d'analogie, même une, bien sûr, c'est une analogie très, très simple, très, très banale, peut-être ridiculement banale, mais... C'est ce type d'analogie que Albert Einstein a utilisé pour créer ses plus belles découvertes. Comme vous allez voir, c'est une sorte de généralisation par analogie ou disons une sorte d'élargissement catégoriel par analogie. Et donc, si je disais par exemple, c'est des bananes que j'ai trouvées dans la même caisse, dans le supermarché, alors il y a peut-être moins de raison de présumer que toutes les bananes seront bonnes. Alors, ça dépend du contexte, ça dépend de la situation. On ne sait pas exactement à quel point on peut généraliser des choses qui semblent un peu semblables. Alors, maintenant, on va passer à la physique un petit peu. Voici, Albert Einstein, quand il était adolescent, s'intéressait beaucoup à la lumière. Et il avait déjà étudié les équations de Maxwell qui avaient été développées ou découvertes vers 1855 ou 1860. Je ne me souviens pas de la date précise. Quoi qu'il en soit, voilà, ça c'est la forme d'un rayon de lumière. Maxwell avait en quelque sorte démontré que la lumière... tout le monde savait, à partir de environ 1810, que la lumière était une onde. Il y avait eu un grand débat entre Newton et Hooke, si je me souviens bien, et aussi Huygens aux Pays-Bas. Mais la décision avait été remportée par... contre Newton et en faveur de Huygens et de Hooke, qui avaient prétendu que la lumière, ou affirmé que la lumière était une onde. Mais personne ne savait qu'est-ce qui ondulait, personne ne le savait. Mais c'était Maxwell, en 1855 environ, qui a découvert, à sa très grande surprise, que c'était une ondulation des champs électriques et des champs magnétiques en même temps et perpendiculairement l'un à l'autre. Alors voilà, vous avez par exemple le champ électrique vertical en rouge et le champ magnétique horizontal en bleu qui font des oscillations et tout à fait... synchronisé ou en, et on savait alors le rayon de lumière se déplace ici vers la droite et alors si on ne court pas comme Einstein mais si on est au repos et on regarde le rayon de lumière qui passe, alors on verra bien sûr qu'il y a, regarder c'est une métaphore parce qu'on ne peut pas regarder les champs magnétiques et les champs électriques, mais si on mesure, alors on verra que le champ électrique et le champ magnétique changent tout le temps. Alors, et ça, c'est ce que disent les équations de Maxwell. Que le champ électrique et le champ magnétique doivent forcément changer avec le temps et avec la position dans l'espace. Mais Einstein s'était posé la question de ce qui se passerait s'il pouvait courir juste à côté et à la même vitesse du rayon. Alors, qu'est-ce qui se passerait? Alors, s'il était là, c'est comme si on était dans un hélicoptère au-dessus d'une vague sur l'océan. Et si on regarde, la vague va comme ça, et moi, je suis dans l'hélico juste au-dessus, alors la vague reste pour moi. La vague ne change pas son altitude, c'est-à-dire la hauteur ne change pas, parce que moi, je suis exactement au-dessus du sommet de la vague. Et rien ne change. Alors, s'il faisait comme ça en courant, alors ce qu'il verrait, c'est qu'il y aurait un champ électrique, il serait, disons, au sommet du champ électrique et rien ne changerait parce qu'il irait exactement à la même vitesse que ce sommet et le sommet serait exactement à côté de lui. En fait, et ça change, c'était bizarre parce que il y aurait dans ce cas-là, il y aurait un champ électrique qui ferait comme ça mais qui ne changerait pas dans le temps, juste dans l'espace. Et les équations de Maxwell ne permettent pas une solution comme ça. On ne peut pas avoir un champ électrique qui oscille comme ça dans l'espace, qui ne bouge pas. Ce serait une violation des équations. Et même à 15 ans, il savait cela. Alors, pour lui, c'était une sorte de paradoxe, parce que ça voulait dire que c'était impossible de courir à exactement la vitesse de la lumière. C'était impossible parce que ça, là, on violerait les équations de Maxwell. Alors, il s'était posé cette question quand il avait environ 15 ans. Il voulait savoir pourquoi ce n'était pas possible de faire ça. Pourquoi ça, c'est parce qu'il savait que les lois de la physique sont les mêmes. Et je vais vous parler un petit peu... où est-ce que je... Peut-être qu'on va regarder... Bon, donc on va parler un petit peu de cette question de ce qu'on appelle maintenant la relativité galiléenne. Alors voici un bateau en mer calme. Il y a deux enfants sur le pont du bateau et sous un dôme, alors il n'y a pas de vent et ils peuvent très bien jouer à la balle. Ça, pas de problème, on comprend. Et le bateau est amarré, on comprend très bien la situation. Et maintenant, on va comparer cette situation avec une autre situation qui est semblable, mais là, il y a le bateau qui se déplace vers la gauche à une vitesse constante. Et il y a les mêmes enfants, il y a le même dôme, la mer est toujours calme. Alors, qu'est-ce qui se passe quand les enfants jouent à la balle? Alors, exactement la même chose, c'est-à-dire pour eux, ils ne savent pas qu'ils sont en train de se déplacer. C'est comme si on était sur un trottoir roulant à la gare Montparnasse. On ne peut pas savoir. On peut jongler, par exemple, sur le trottoir roulant, pas de problème. Ce n'est pas comme si les lois de la physique changeaient en fonction du mouvement. On peut faire tout ce qu'on veut faire, pourvu qu'on aille à une vitesse constante. Alors voilà, c'est ce que font ces enfants. Et si le dôme n'était pas transparent et ils ne pouvaient rien voir, alors ils ne pourraient pas savoir s'ils étaient dans un état de repos ou de mouvement. Il serait impossible de le savoir. Ça, c'est ce qu'on appelle la relativité galiléenne. Donc Einstein était très conscient de ce principe. Et... il avait aussi noté quelque chose d'intéressant. Il avait été frappé par un contraste intéressant de ces deux situations. En quelque sorte, c'est la même situation. C'est une situation physique vue de deux points de vue différents. Alors, en haut, vous avez un aimant avec les pôles nord et sud et un anneau en métal, en fer, disons. Et alors, là, qu'est-ce qui bouge? C'est l'anneau qui bouge. Alors, il y a les lignes avec les flèches, ces cercles ou ces ellipses, sont les lignes du champ magnétique. qui est due à l'aimant. Alors, quand l'anneau se déplace vers la gauche, l'intensité du champ magnétique augmente. Ça veut dire que ce qu'on appelle le flux magnétique qui passe par l'anneau augmente, le flux total. Et quand le flux change avec le temps, c'est-à-dire ce qui passe, tout le flux qui passe par cet anneau, quand ça change avec le temps, alors ça crée une force dans l'anneau et les électrons commencent à tourner dans l'anneau. Exactement comme s'il y avait une batterie qui les poussait. Alors, mais là, la situation est que dans l'espace, on dirait qu'il n'y a qu'un champ magnétique et aucun champ électrique, parce qu'un aimant ne produit pas de champ électrique. Alors, il n'y a pas de champ électrique, et l'explication de ce phénomène est due à l'idée que l'anneau se déplace dans le champ magnétique. Tandis qu'en bas, c'est exactement la même situation, mais on change maintenant de point de vue, on se met dans le système de repère où l'anneau est au repos, et c'est l'aimant qui se déplace maintenant vers la droite. C'est la même situation, mais on a changé de point de vue. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Alors, maintenant, selon les équations de Maxwell, dans l'espace, quelque part, quand le champ magnétique change, quelque part, dans un point, un certain lieu dans l'espace, si le champ magnétique change avec le temps, alors ça veut dire qu'il y a aussi un champ électrique. Alors là, on voit la même situation, mais il y a un champ électrique dans ce système de repères différent, c'est-à-dire en mouvement par rapport au premier système de repères. Il y a un champ électrique, et le champ électrique fait en sorte que les électrons dans l'anneau bougent. Alors, il y a deux explications différentes qui se rivalisent entre elles pour expliquer pourquoi les électrons font ce petit tour de l'anneau. Alors, c'est très intéressant parce que Einstein, ça le laissait un peu perplexe. Pourquoi il y a deux explications totalement différentes? Pourquoi, dans un des deux cas, il y a un champ électrique et dans l'autre, il n'y en a pas? C'était bizarre et il voulait comprendre cela plus à fond. Donc, alors, le principe de relativité galiléenne disait que les lois de la physique fonctionnaient exactement. C'était exactement la même chose dans un système de repères qui était au repos, un système de repères qui était en mouvement constant par rapport au premier système de repères. Alors, c'est, disons, pensons au trottoir roulant à Montparnasse, c'est le jongleur. Le jongleur peut tout faire sur le trottoir roulant que peut faire un jongleur sur le juste à côté de lui, sur le plafond. Le plancher. Je ne pense pas très bien. Bon, ok. Alors, le plafond, ce serait intéressant aussi. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, Einstein se pose la question de savoir. Est-ce que la relativité galiléenne pourrait valoir aussi pour des choses que Galilée n'avait jamais connues, n'avait jamais rencontrées? Par exemple, Galilée, il aurait bien compris l'idée de jongler sur un trottoir roulant, parce qu'il n'en avait pas, mais vous comprenez, il aurait bien compris l'idée de jongler dans un vaisseau, dans un bateau, et que ça, ce serait exactement la même chose que sur terre ferme. Alors, Galilée ne connaissait pas les phénomènes de l'électromagnétisme, par exemple. Il ne connaissait pas la thermodynamique. Alors, Einstein, il a compris que pour comprendre à fond... Il manque quelque chose. Il manque... Ah oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'était ça. Il avait compris que la physique est divisée en diverses branches. Alors prenons la mécanique. La mécanique, c'est ce que connaissait vraiment Galilée. Mais les autres branches, Galilée ne connaissait pas. Et donc, vous avez là des croissants de la même fournée, ou des bananes de la même caisse. Et on va se demander, on va se poser la question de savoir, est-ce qu'on peut généraliser là le principe de relativité galiléenne aux autres branches de la physique, des branches que Galilée n'avait jamais rencontrées et ne connaissait pas. Galilée avait compris, il connaissait la mécanique, il connaissait l'idée de jongler, il connaissait la gravitation, il connaissait l'idée de jouer à la balle, et les pendules, les boules de canon qu'on laisse tomber de la tour de Pise, et des choses comme ça. Ça, c'est la mécanique, mais il ne connaissait pas l'électrodynamique, par exemple. Est-ce qu'on peut généraliser? Est-ce qu'on peut passer d'un croissant à l'autre? Est-ce que ce sont des croissants qui se ressemblent suffisamment pour se dire « oui, je peux généraliser ». Et qu'est-ce que vous pensez? Bien sûr, Einstein, il s'était dit « moi, j'ai un sens de l'unité cosmique et je vais généraliser ». Oui, on peut généraliser. On peut passer de la mécanique à des choses analogues, aux phénomènes analogues, c'est-à-dire à l'électrodynamique. Ce qui veut dire que les équations de Maxwell doivent marcher exactement comme dans tous les systèmes de repères. Exactement, doivent valoir dans tous les systèmes de repères. Et ça, c'était l'idée d'Einstein. Et là, il y a cette... Einstein lui-même avait dit exactement ceci. Et c'est Banishoffen qui l'a cité. L'idée qu'un principe, celui de Galilée, ayant une généralité tellement large, puisse valoir dans un domaine de la physique, la mécanique, mais en même temps ne pas valoir dans un autre domaine, l'électromagnétisme, me frappa comme a priori assez peu probable. Et voilà, vous voyez l'analogie. Est-ce qu'il utilise ici le mot analogie? Non. Mais est-ce une analogie? Bien sûr. Il passe d'un croissant à l'autre. Il passe d'une banane à l'autre, il passe d'une branche de la physique à une autre par son sens d'unité cosmique. Et voilà, ça c'est ce qui est aux racines de la relativité restreinte. Et quand il a fait cela, alors, je ne vais pas vous parler de toutes les conséquences, parce que les conséquences sont très vastes et très compliquées, mais la chose la plus importante, c'est qu'il a découvert que par exemple, étant donné que les équations de Maxwell donnent un chiffre précis pour la vitesse de la lumière, ça veut dire que dans tous les systèmes de repères, ce chiffre précis vaut. C'est-à-dire que grâce au principe de relativité galiléenne généralisé à l'électromagnétisme, alors la lumière, quand on la voit dans n'importe quel système de repère, a exactement la même vitesse. Ce qui veut dire que, par exemple, paradoxalement, ou ce qui semble paradoxal, c'est que si j'essaie de chasser un rayon de lumière, si je cours à 90% de la vitesse, dans mon système de repère, c'est-à-dire, pas dans mon système de repère, mais disons par rapport à la Terre, si je pouvais courir à 90% de la vitesse de la lumière, alors pour moi, dans mon système de repère, la lumière s'échapperait de moi et à exactement sa propre vitesse, c'est-à-dire pas à 10% de sa vitesse, mais à 100% de sa vitesse. Ou bien le contraire, si le rayon de lumière s'approchait de moi et moi je courais vers le rayon de lumière, est-ce que je mesurerais une vitesse plus élevée? Non, ce serait exactement la vitesse de la lumière comme elle est donnée par les équations de Maxwell, ce qui semble absurde et ridicule, parce que si on compare avec ce qu'on sait, s'il y avait une balle qui venait vers moi et moi je cours vers la balle, bien sûr on sait qu'on additionne les vitesses. Mais ça ne marche pas. Et Einstein a compris que si on ne peut pas additionner les vitesses comme ça, ça veut dire qu'il y a une révolution. Une révolution parce que ça change nos concepts de ce qu'est la vitesse. Et au fond, ça veut dire qu'on change, il faut changer ces notions du temps et de l'espace. Et ça, c'était la vraie révolution de la relativité restreinte en 1905. Et donc, c'était grâce à une petite généralisation par analogie que Einstein a été amené à découvrir la relativité restreinte. Maintenant, je vais passer à une autre découverte d'Einstein. Alors, je voulais vous faire voir que toutes les découvertes d'Einstein ont été inspirées par des analogies, mais des analogies très subtiles, parce qu'on ne se dirait même pas que c'était une analogie, c'est-à-dire la généralisation de la mécanique à l'électrodynamique, ça semble presque banal, mais les conséquences sont révolutionnaires. C'est une banalité révolutionnaire. Et personne d'autre n'y avait pensé. Ça, c'est ce qui est intéressant. Par exemple, les équations de la relativité existaient déjà. Poincaré les avait trouvées, Lorentz les avait trouvées, d'autres personnes les avaient trouvées. Personne ne les comprenait. Personne ne savait exactement ce que ça voulait dire. Maintenant, je vais passer à une histoire vraiment extrêmement étrange. Je viens de vous parler de la nature de la lumière. La lumière, on savait depuis environ 1810 que la lumière était une onde. Et grâce aux expériences en Angleterre de Young et en France de Fresnel. Et alors, c'était Maxwell a découvert vers 1855 ou 60 que, en fait, la lumière n'était pas seulement une onde, mais c'était une onde d'un type inouï, parce que c'était une onde composée de champs magnétiques, de champs électriques qui ondulaient dans l'espace et dans le temps. C'était quelque chose de très étrange, et ça, c'était une des découvertes les plus merveilleuses de tous les temps. Et alors, on avait compris alors j'ai très peu d'équations dans cette conférence, mais là j'ai le produit de lambda et nu. Lambda, c'est la longueur d'onde, et nu, c'est la fréquence, et leur produit, c'est c, et c, ça, c'est une constante, c'est la vitesse de la lumière qui émerge automatiquement un chiffre précis des équations de Maxwell. Et donc, j'ai donné des exemples de lumière de différentes longueurs d'onde. Alors, une longueur d'onde assez longue, de la lumière rouge, puis orange, puis verte, puis bleue et puis violette. Et alors, on a différentes longueurs d'onde et forcément différentes fréquences, parce que la relation, c'est de proportionnalité inverse. Alors, plus courte est la longueur d'onde, et alors plus élevée est la fréquence. Donc ça, c'est juste pour vous donner l'idée qu'il y a ces différents types de lumière. Alors, une grande question qui existait qui intéressait déjà les physiciens, était la question du corps noir, du soi-disant corps noir. Et là, j'ai donné une version du corps noir. L'idée, c'est qu'on a une cavité qui est remplie de ondes électromagnétiques, c'est-à-dire de lumière. On peut dire que ce n'est pas que la lumière, parce qu'il y a aussi, il peut y avoir les ondes radio, les ondes gamma, les ondes, tout ça, mais c'est la même famille. C'est toujours les ondes qui obéissent aux lois, aux équations de Maxwell. Donc voilà, vous avez des couleurs différentes qui se propagent et qui rebondissent contre les murs de ce corps noir. Et dans une situation comme ça, la cavité est maintenue à une température précise, T, une constante, hein, une température constante. Alors, on a ces différentes couleurs de lumière. On peut se demander quelle est la couleur dominante de la lumière dans une situation. Si on sait exactement quelle est la température, quelle sera la longueur d'onde ou la fréquence dominante dans cette cavité qui est pleine d'ondes lumineuses. Ça, c'est une question très importante pour les physiciens vers la fin du 19e siècle. Alors, on avait étudié le spectre. Le spectre, ça veut dire là, vous avez un graphique sur cet axe, vous avez nu la fréquence, et sur l'autre axe, on a une sorte de densité, c'est-à-dire de densité d'énergie. Ça veut dire que si on regarde ces points, bien sûr, ce n'est pas un vrai graphique, mais ça donne l'idée. Alors, c'est un graphique expérimental. Ça veut dire que c'était le résultat d'expériences faites par beaucoup de physiciens. On avait déterminé qu'il y avait cette courbe en forme de cloche, ce qui voulait dire qu'il y avait un maximum. Alors, il y avait une fréquence où il y avait le plus de lumière à cette fréquence. Ça veut dire que ça, c'était la fréquence dominante. Et si on changeait la température, alors le sommet se déplacerait vers la droite ou vers la gauche en fonction de la température. Et donc, le spectre était un mystère. Personne ne comprenait exactement d'où ça venait. Il y avait eu plusieurs physiciens qui avaient essayé de trouver des équations qui donneraient exactement la forme de cette courbe en forme de cloche, mais personne n'y avait réussi jusqu'à 1900. Voici. Alors, l'expérience, les points expérimentaux sont ces points noirs. Et donc, il y avait eu en 1896 Wilhelm Wien qui avait déterminé, qui avait trouvé une équation qui donnait une bonne approximation, mais qui n'était pas tout à fait juste. Ça, c'est en vert. Et puis, il y avait Rayleigh Jeans, deux physiciens anglais, qui avaient découvert une autre, ou qui avaient trouvé une autre explication, et qui donnait très précisément le côté gauche. Ça donnait assez précisément le côté droit de la courbe, et ça donnait très, très précisément le côté gauche, mais puis il y avait une divergence à un moment donné, et ça ne marchait plus. C'était en fait une sorte de catastrophe parce que ça montait vers l'infini. Et puis, en 1900 aussi, Max Planck avait trouvé une équation qui recoupait exactement tous les points expérimentaux, mais il ne savait pas pourquoi ce serait juste. C'est-à-dire qu'il avait fait une sorte d'interpolation entre ces deux solutions, entre la solution de Rayleigh-Jeans et la solution de Wien. Il avait fait une sorte d'interpolation mathématique. Il ne savait pas pourquoi ça marchait. Il avait juste combiné, il avait un peu tripatouillé l'équation en sorte que ça donne exactement la forme précise qui coïncidait avec les résultats expérimentaux, mais il ne savait pas pourquoi. Et puis, il avait écrit un deuxième article quelques mois plus tard, même toujours en 1900, qui essayait de donner une explication, et son explication, c'était que les atomes dans les murs de la cavité, les murs de ce corps noir, les atomes pouvaient avoir ou posséder certains niveaux d'énergie et pas d'autres, ce qui était totalement ridicule. Et il détestait cette idée. Il pensait que cette idée était stupide, bête, ridicule et laide. Il voulait qu'elle ne soit pas juste, mais il savait que c'est une conséquence de ce qu'il avait, de sa formule qui marchait Et alors, il se disait, ça doit être juste une sorte d'aberration provisionnelle, ça va être remplacé, on va voir, on va retourner à l'idée que toutes les énergies sont possibles, mais pour le moment, on va juste proposer l'idée que les atomes qui font partie des murs de la cavité ne peuvent pas être à tous les niveaux imaginables d'énergie, mais il y a pour chaque... les atomes peuvent vibrer, peuvent faire comme ça, plus ou moins, et avec une certaine fréquence. Et si un atome vibre avec une certaine fréquence, alors il peut avoir une quantité d'énergie, si la fréquence est de nu, alors la quantité d'énergie que peut avoir cet atome, c'est H nu, ou H est une nouvelle constante de la nature, que Planck détestait, mais qui était connue comme la constante de Planck. Alors, on multipliait la fréquence par H, ça donnait une valeur qui était une toute petite quantité d'énergie, et l'atome pouvait avoir H nu, ou 2 H nu, ou 3 H nu, c'était comme un centime. C'était comme on pouvait avoir des centimes d'énergie, mais pas des énergies plus petites qu'un centime. C'était très bizarre, mais c'était l'idée qu'il avait proposée. Il ne l'aimait pas du tout, mais c'était son idée. Eh bien, voici les formules, plus ou moins les formules. Alors, pour Religion, c'était nu au carré. Pour Wien, c'était nu puissance 3 avec un exposant si vous regardez l'exposant, c'est moins H nu, ça c'est la quantité d'énergie dont je vous ai parlé, H étant une constante. Et K, c'est aussi une constante, c'est la soi-disant constante de Boltzmann, et T, c'est la température. Alors, vous voyez, dans l'exposant, il y a trois constantes, H, K et T. Alors, on peut les négliger en quelque sorte, c'est que des constantes. Alors, ce qui compte dans l'exposant, c'est juste E puissance moins nu. Ça, c'est ce qui compte. Alors, c'est nu puissance 3 multiplié par E puissance moins nu, avec une constante. Et pour Planck, c'est un peu plus compliqué, mais vous voyez qu'il y a toujours cette E puissance quelque chose, c'est exactement la même chose. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais ça, c'était les équations qui donnaient qui expliquait en partie ou entièrement cette courbe en forme de cloche. Et maintenant, Einstein avait fait un rapprochement entre deux choses. Un rapprochement, c'est une analogie, une comparaison. Il avait vu qu'il y avait une similarité qui l'a inspiré entre le corps noir et ce qu'on appelle un gaz parfait. Et je vais vous expliquer ce que c'est qu'un gaz parfait. Voilà, alors vous avez aussi une cavité où il y a des molécules qui rebondissent contre les murs et aussi contre elles-mêmes, contre les autres, c'est-à-dire. Et là, vous avez, par exemple, je pense que ça doit marcher, en quelque sorte, peut-être, peut-être pas. Bon, ça n'a pas d'importance. Là, vous avez une molécule qui est... Ça, la queue, ça représente la vitesse. Si la queue est longue, c'est une grande vitesse. Si la queue est petite, c'est une petite vitesse. Bon, alors là, vous avez une molécule qui est sur le point de rebondir contre le mur. Là, par exemple, vous avez deux molécules qui sont sur le point de s'entrechoquer. Là, deux molécules qui viennent de s'entrechoquer, etc. Alors, ça, c'est un gaz idéal. Et dans le même sens, on va avoir une cavité qui est maintenue à une température précise, température T. Et on va se demander, alors, quelle sera la répartition des énergies des molécules? Parce que, comme vous voyez, toutes les molécules n'ont pas la même vitesse, mais en fonction de la température de cette cavité, alors il va y avoir encore une fois un sommet, il va y avoir en fait une courbe en forme de cloche. Et on va regarder ça. Est-ce que c'est... Ah, je pense que je... Attendez. 15, parfait. Je pensais que j'avais... Spectre du gaz, parfait. Je me demande, c'est où? Il faut que ça soit là, quelque part. Ah! Voilà, ok. Retrouvé. Bon, alors ça, c'est le spectre du gaz parfait qui avait été déterminé d'abord par Maxwell et puis confirmé, disons, Boltzmann avait expliqué certains détails que Maxwell n'avait pas exactement compris. Alors, l'équation, est, maintenant, on appelle l'équation, la distribution, le spectre de Maxwell et Boltzmann. Et donc, ça montre la vitesse, une vitesse croissante. Ça, c'est l'axe des vitesses. Et vous voyez encore une fois une courbe en forme de cloche qui a une équation. Et voilà l'équation. KE, ça veut dire énergie cinétique. Ça veut dire la quantité d'énergie que possède une molécule. C'est corrélé. C'est très très proche de la vitesse. Alors on peut penser plus ou moins à la vitesse. Alors c'est en quelque sorte c'est la vitesse, c'est vraiment la vitesse au carré. Mais bon, disons que c'est la vitesse au carré. KE, ça veut dire la vitesse. Alors la forme de cette, l'équation de cette courbe a cette forme avec l'exposant E puissance moins énergie cinétique divisé par KT. KT, c'est une constante. Et donc, on a en quelque sorte juste la vitesse au carré dans l'exposant. Ça, c'est le spectre du gaz parfait. Alors, Einstein a été frappé par la similarité de ces phénomènes. Et je ne sais pas pourquoi personne d'autre n'y avait vraiment pensé. En fait, Wien y avait pensé. Il avait basé sa dérivation de la du spectre du corps noir en partie sur cette analogie, mais il n'avait pas vu les profondeurs de cette analogie. Einstein a été plus frappé que Wien par cette analogie. Il l'a prise plus au sérieux. Et alors, voilà, il a comparé l'équation, pas l'équation de Planck. Et c'est intéressant de constater que Einstein était un peu, il trouvait l'équation de Planck un peu suspecte. Alors, il ne s'est pas appuyé sur l'équation de Planck. Il aurait pu le faire, mais il a préféré s'appuyer sur l'équation de Wien, même si c'était pas exactement cette équation-là n'était pas exactement correcte. Il s'est appuyé sur cette équation. Il a noté que les formes ici étaient très semblables. Alors, on a quelque chose qui a à voir avec, ici, avec l'énergie cinétique. Et ça, c'est une énergie aussi. Comme vous voyez, H nu, c'est une énergie, puissance 3. Ici, c'est une énergie cinétique. Et puis là, il y a exactement la même forme. Alors ça, Einstein, il s'est dit qu'il y a, il y a quelque chose de très, 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 très important ici. Il y a anguille sous roche. Et donc, il a décidé de poursuivre cette idée un peu plus loin. Il a étudié là ce qu'on appelle l'entropie de ces deux systèmes. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je vais juste vous dire qu'il s'est posé la question de savoir quelle est la probabilité que toute l'énergie de, disons, prenons le corps noir, prenons le gaz parfait. Alors, si on a toutes ces molécules dans la cavité, alors est-ce possible que parfois toutes les molécules se trouvent dans un volume réduit, c'est-à-dire on peut imaginer une sphère plus petite que la cavité entière, une petite sphère. Alors, quelle est la probabilité que toutes les molécules se trouvent dans cette toute petite sphère? C'est comme si toutes les molécules dans cette salle allaient vers un coin. Alors, la probabilité est infime. Mais si on peut calculer la probabilité, en tout cas, et ça a à voir avec l'entropie du système. Einstein l'a calculé. Il a fait de même pour le corps noir. Il s'est posé exactement la même question, c'est-à-dire est-ce que toutes les ondes électriques pourraient se trouver dans un volume réduit par rapport à la cavité entière. Il a calculé la probabilité, et quand il a calculé ces deux probabilités, ce qui voulait dire les deux entropies, alors, il a trouvé ces deux formules en 1905. Vous voyez, alors, delta S, ça veut dire, c'est en quelque sorte l'entropie. On n'a pas besoin de faire attention à delta S. C'est juste regarder les formules, les deux formules à droite. Parce que dans la formule noire, savoir avec le gaz parfait. Et si on ignore K, parce que c'est une constante, ça ne veut rien dire, nous ne nous intéressons pas aux constantes, et si on ignore le logarithme, ça aussi c'est juste une fonction qui n'est pas très importante. Ce qu'on a, c'est le rapport des deux volumes, le volume entier et le volume réduit, puissance n. N, c'est quoi ? C'est le nombre de molécules. C'est le nombre de molécules. Pour les gens qui connaissent bien la statistique, on verra que c'est le rapport des deux volumes. Ça c'est la probabilité qu'une molécule se trouve dans le volume plus petit. Et c'est tout. V sur V0, c'est juste la probabilité qu'une seule molécule se trouve dans le volume réduit. Alors, puissance N, ça veut dire que toutes les molécules se trouvent dans la sphère plus petite. Et donc, puissance N, c'est le nombre de molécules. N, c'est le nombre de molécules du gaz parfait. Et la formule analogue qu'il avait trouvée pour le corps noir, c'était exactement la même formule. Exactement la même formule, à part le fait que là où il y avait N, il y avait une quantité E divisé par H nu. E, c'est l'énergie totale, et H nu, en fait, on est limité maintenant, on se limite à une seule fréquence. Alors, E, c'est l'énergie totale à cette fréquence, et H nu, c'est cette quantité que déteste Planck ou que détestait Planck. C'est la quantité minimale d'énergie. Alors, Einstein, il s'était dit, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est comme si la nature me disait, ces équations me disaient, qu'il y a des molécules de lumière dans le corps noir. Il y a des molécules. Et combien de molécules ? Alors, N, ça correspond à E divisé par H nu. Alors, ça, c'est l'énergie totale. Ça, c'était une toute petite énergie. Alors, ça me dit que si je prends l'énergie totale, je divise par cette petite énergie, ça me donne le nombre de copies de cette petite énergie, ce qui veut dire qu'il y a ce nombre-là de molécules, entre guillemets, de molécules de lumière, ce qui était une hypothèse absolument absurde, parce que ça contredisait toutes les idées reçues depuis le début du 19e siècle, dû à Young, à Fresnel, à Maxwell, et aux expériences qui avaient été faites par Heinrich Hertz en 1887 vers 1889, qui avaient démontré que la lumière était certainement une onde électromagnétique, et pas des particules, certainement pas des particules. Tout le monde savait avec certitude finale que la lumière était une onde et n'était pas des particules. Et Einstein, en 1905, il a proposé que la lumière était en fait des particules. On a réagi à ça avec horreur. Qu'est-ce qu'il avait proposé cela. Et les physiciens en général pensent que dans son article de 1905, ce qu'a fait Einstein, c'est qu'il a expliqué un effet dont je vais vous parler maintenant, qui s'appelle l'effet photoélectrique. L'effet photoélectrique, c'est une histoire vraiment incroyable. Parce que qui a découvert l'effet photoélectrique ? C'était en effet ce même Heinrich Hertz qui, en 1887, avait fait des expériences pour confirmer que la lumière était une onde électromagnétique. Il avait fait des expériences où il avait créé des champs électriques et magnétiques, et puis ça avait provoqué des étincelles dans une autre partie de la même pièce. C'est-à-dire qu'il avait créé des ondes et puis ça provoquait des étincelles ailleurs dans la même pièce. Et il pouvait étudier les propriétés de ces ondes. Il avait des trucs pour détecter leur polarisation et leur vitesse et beaucoup de choses. Et comme ça, il pouvait démontrer que ces ondes étaient vraiment les ondes prédites par Maxwell, par les équations de Maxwell. C'était la première fois que quelqu'un avait vu des ondes électromagnétiques. Mais en même temps, ce qui est vraiment dans la même série d'expériences, exactement la même série d'expériences, comprenez-vous, dans cette même série d'expériences, il a noté qu'il y avait une petite anomalie parce qu'il voulait voir, il voulait regarder ces étincelles produites par les champs électriques et magnétiques, mais les étincelles étaient, à la lumière, on ne pouvait pas les voir très bien. Alors, il a créé une sorte de boîte où il pouvait les voir au noir. Mais quand il mettait cette partie de son appareil dans une boîte, alors les étincelles étaient plus petites. Il ne savait pas pourquoi. Alors, il a étudié ce phénomène. Il a compris, après je ne sais pas combien de temps, quelques semaines peut-être, que ce qui se passait, c'était que s'il exposait cette partie de son appareil à la lumière, alors les électrons étaient, il y avait plus d'électrons qui étaient libérés, et donc l'étincelle pouvait être plus grande. Mais s'il mettait tout ça au noir, alors il y avait moins d'électrons qui étaient disponibles, alors les étincelles étaient plus petites. Et ça, c'était sa découverte. Il ne savait pas pourquoi. C'était juste une sorte d'effet secondaire de ses expériences. Il ne soupçonnait pas que c'était la racine de la révolution qui finirait par, en quelque sorte, miner les équations de Maxwell pour la lumière. Il confirmait d'un côté les équations de Maxwell avec sa main droite, avec sa main gauche, il minait les équations de Maxwell avec l'effet photoélectrique. Il ne le savait pas. Il a publié un article, mais il n'avait aucune idée de pourquoi. Les gens ont essayé de démontrer comment ça pouvait s'expliquer à l'aide des équations de Maxwell. Personne n'y était arrivé. Alors, en 1905, il faut expliquer aussi que personne n'avait étudié exactement le phénomène. C'est-à-dire, Hertz l'avait observé, mais il n'avait pas de graphique, il n'y avait pas de résultats précis sur l'effet photoélectrique. Il y avait des résultats très, très flous. Mais on savait que le phénomène, que cet effet existait. Mais les détails, on les ignorait. Alors, en 1905, Einstein, à la fin de son article, où il propose, grâce à cette analogie entre le corps noir et le gaz parfait, où il propose que la lumière est faite de molécules, il dit, alors, si vous voulez tester mon hypothèse, voici trois possibilités pour vous. Il a donné une liste de trois possibilités, dont j'ai oublié toutes les trois, mais parmi ces idées, c'était l'effet photoélectrique. Et personne ne savait exactement quelle était la forme du graphique qu'on verrait si on étudiait le nombre d'électrons qui étaient libérés par la lumière. Personne ne savait. Einstein ne le savait pas. Personne ne le savait. Mais les physiciens d'aujourd'hui et des dernières décennies ont tous tendance à dire que ce qu'Einstein avait dit, ils ignorent le fait qu'il avait fait cette analogie. Ils ne savent pas que Einstein avait, que l'article de 1905 sur les quantas lumineux était vraiment sur une analogie. C'était un article entièrement basé sur cette analogie. Les physiciens d'aujourd'hui n'en parlent jamais. Ils disent, oh non, ce qu'il a fait en 1905, c'est qu'il a expliqué l'effet photoélectrique. Rien de tel. On ne connaissait pas l'effet photoélectrique. On ne savait pas quel était le comportement des électrons en fonction de la lumière. on ne savait pas. Il n'y avait rien à expliquer. Il n'y avait pas de graphique à expliquer. Il y avait un phénomène qu'Einstein a osé dire. Si vous étudiez à fond ce phénomène, peut-être que vous verrez qu'une prédiction s'ensuit de mon hypothèse sur les quantas, sur les molécules de lumière, mon hypothèse prédit une certaine forme pour les expériences si quelqu'un les fait. Alors, qu'est-ce qui s'est produit ? Alors, vers 1910, personne ne croyait à ces idées bêtes et ridicules d'Einstein sur les particules de lumière. Personne n'y croyait, sauf Einstein lui-même. Personne, absolument personne. Mais en 1910, Millikan, un expérimentaliste américain, a commencé à étudier précisément, très précisément, c'était difficile, l'effet photoélectrique. Et au cours de 5 ans, il a découvert la forme expérimentale de ce graphique. Et ça a confirmé à 100% et parfaitement la prédiction d'Einstein. Mais la prédiction d'Einstein n'était pas une explication d'un phénomène connu. C'était un saut dans le noir, parce que le phénomène n'avait jamais été étudié en 1905. Alors, ce n'était pas une confirmation, c'était une confirmation de l'idée d'Einstein, Einstein n'avait pas produit une explication de quelque chose de déjà connu, il avait prédit un phénomène. Et ces prédictions se sont avérées absolument correctes. Alors, qu'est-ce qu'a dit Millikan en 1915 ? Il a publié un article en disant « Alors, les prédictions d'Einstein ont été à 100% confirmées. » Et tout le monde sait que la base sur laquelle Einstein a fait ses prédictions est ridicule. Et Einstein lui-même a rejeté ses propres idées, ce qui n'était pas du tout vrai. C'était un fantasme de la part de Millikan. Un fantasme. Einstein n'avait absolument pas rejeté ses propres idées. Mais Millikan les trouvait tellement ridicules qu'il a dit non, ce n'est pas possible. Et tout le monde était d'accord avec Millikan. Tout le monde, croyez-le moi. Personne n'y croyait. Et alors, en 1922, quand le comité Nobel a décerné le prix Nobel à Einstein, c'était pourquoi ? Pour son, entre guillemets, son explication de l'effet photoélectrique. Est-ce que c'était pour sa découverte des quantas lumineux ? Non, absolument pas. Parce que personne n'y croyait. Tout le monde croyait que c'était des balivernes. Balivernes. C'était ridicule. Il n'y avait pas de molécules de lumière. Einstein avait trouvé la forme mathématique de cette ligne, cette courbe que Millikan avait découverte. Mais son explication était, c'est-à-dire ce qui sous-tendait son explication était stupide et ridicule, mais son explication par hasard avait été juste. Alors il a mérité un prix Nobel, un petit prix Nobel peut-être, parce que l'effet photoélectrique n'est pas très intéressant. Et donc, en 1923, on a découvert l'effet, ou Compton, un autre physicien américain, a découvert un effet qui s'appelle l'effet Compton, ce qui avait à voir avec la dispersion des ondes lumineuses quand il y avait une collision entre une onde lumineuse et des électrons. Et ce qu'on a découvert, c'est que cet effet, ça changeait la longueur d'onde de la lumière exactement de la façon qu'avait prédit Einstein. Ça voulait dire que, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça voulait dire que, en fait, la lumière était arrivée et avait entré en collision avec les électrons exactement comme s'il s'agissait de particules de lumière. Et là, en 1923, 18 ans après, l'article d'Einstein basé sur son analogie, n'oubliez pas, Finalement, les gens ont commencé à croire que Einstein avait raison en 1923. Il a pris 18 ans pour que les gens comprennent. Jusque-là, il n'y avait personne au monde, pas Planck, pas Bohr, pas Millikan, pas qui que ce soit. Alors, c'est une histoire intéressante, très très intéressante. Et voilà, alors, voilà les possibilités. Light is a wave, light is a particle, et entre les deux, light is les deux. Ça, c'est un ambigramme que j'ai fait, un ambigramme oscillation. Bon, ok, alors, on passe à un autre cas. On passe maintenant à E égale MC2. Ça, c'est une tentative d'explication de comment Einstein est arrivé à son équation. C'est peut-être pas juste. En fait, on va en parler un petit peu. Je vous ai déjà lu tout ça. Je vais pas le répéter, mais c'est juste pour vous faire comprendre que maintenant on va parler de l'instinct d'unité cosmique et l'idée qu'on ne doit pas avoir deux types de masse parce que c'est une idée esthétiquement répugnante. Ça c'est ce dont on va parler maintenant. Bon, ok. Alors, Einstein avait découvert ces principes de la relativité restreinte et il voulait étudier les conséquences. Alors, il s'est proposé d'étudier un petit phénomène où il y a une lampe de poche qui émet simultanément deux rayons. La symétrie, c'est juste parce que c'est plus facile. Il aurait pu étudier la situation avec un rayon. Mais j'ai inventé le mot ambilampe pour décrire. C'est juste l'idée qu'il y a deux rayons de lumière qui sont émis dans les deux sens opposés. Alors, la lampe de poche reste, ne bouge pas et émet en même temps ces deux rayons de lumière qui ont tous deux l'énergie epsilon divisé par deux. Alors, en tout, l'énergie dégagée par cet objet, par la lampe de poche, est de epsilon. Alors, Einstein voulait étudier cette situation. Alors, il a fait une manœuvre typiquement einsteinienne. Il est passé à un autre système de repères. Et dans l'autre système de repères, alors, maintenant, c'est la lampe de poche qui bouge. Parce qu'on est dans, c'est-à-dire on est maintenant, disons, sur un trottoir roulant, si vous voulez, où c'est nous qui bougeons, ou c'est la lampe de poche qui bouge. On ne sait pas et on ne peut pas distinguer les deux possibilités. Mais en tout cas, par rapport à nous, la lampe de poche bouge et a une vitesse de V. Et donc, grâce à ce qu'on appelle l'effet Doppler, que vous connaissez tous, l'effet Doppler, c'est qu'avec le son, ça avait été déjà étudié à fond par le physicien allemand Doppler, il avait, si vous entendez une ambulance qui s'approche, alors, et puis quand l'ambulance passe et s'éloigne, alors c'est... Alors, la fréquence baisse. Alors, ça, c'est l'effet Doppler. Tout le monde connaît l'effet. Et c'est parce que quand on s'approche, ou quand l'ambulance, quand les deux choses s'approchent, alors il y a plus de sommets de l'onde qui arrivent par seconde. Alors, la fréquence est plus élevée. Et quand l'ambulance s'éloigne, alors il y a moins de sommets de l'onde qui arrivent par seconde. Ce qui veut dire que la fréquence est plus basse. Alors, dans ce cas-ci, c'est exactement la même chose, une analogie, si vous voulez, une analogie avec le son, mais maintenant, c'est la lumière. Et dans ce système de repères, maintenant, on a, étant donné que la lampe de poche bouge, alors ça donne encore plus d'énergie au rayon de lumière qui va dans ce sens-là et moins d'énergie au rayon de lumière qui part dans l'autre sens. Alors, il y a encore un peu plus de epsilon divisé par 2 et un peu moins d'epsilon divisé par 2 dans l'autre sens. Et il a additionné ces deux quantités et il a pu calculer ces quantités. Moi, je ne donne pas les calculs. Je vous dis tout bonnement qu'il a découvert que c'était plus grand que epsilon divisé par 2 et plus petit, mais il a calculé précisément parce que c'était une conséquence de ces équations de la relativité restreinte. Et donc, il a calculé, il a fait la somme, il a découvert qu'il y avait un tout petit peu plus d'énergie que ce à quoi on se serait attendu. C'est-à-dire, et donc, ça voulait dire qu'il y avait plus d'énergie qu'il devrait y avoir, ce qui voulait dire qu'en quelque sorte, dans la lampe de poche, il y avait moins d'énergie parce que l'énergie était conservée. Alors, pour que l'énergie soit conservée, s'il y a plus d'énergie qui s'échappe, qui s'en va, alors ça veut dire qu'il y a un petit peu d'énergie qui est partie de la lampe de poche dont on ne savait rien. Et donc, il a calculé exactement quantité d'énergie qui manquait. Et ça avait à voir, dans le système de repères où la lampe de poche bouge, il y a une vitesse V, alors la quantité d'énergie était donnée par cette formule. C'était juste une conséquence de la relativité restreinte. C'était cette formule, ça c'était l'énergie qui manquait dans la lampe de poche, qu'il a calculée grâce à l'effet Doppler. Très simple. Mais on savait aussi qu'il y a cette quantité, l'énergie cinétique d'un objet en mouvement. L'énergie d'un objet en mouvement est donnée toujours, au moins quand la vitesse est basse, par l'autre formule, mv au carré divisé par 2. Ça, c'est l'énergie cinétique d'un objet quelconque donné qui bouge avec une vitesse v. Alors, vous voyez que c'est la même chose. C'est juste que ça veut dire qu'il manquait un tout petit peu de masse dans la... il manquait quelque chose dans la lampe de poche et on pouvait dire qu'il manquait un peu de masse. En fait, si on retourne au premier système de repère où la lampe de poche ne bouge pas, alors il y a la même quantité de masse qui manque, mais il n'y a aucune vitesse parce que la lampe de poche ne se déplace pas, ne bouge pas. Alors ça veut dire que ça n'a rien à voir avec cette vitesse V. La vitesse V, c'est juste une technique pour découvrir, pour calculer combien de masse a perdu la lampe de poche. À la fin, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'on compare deux systèmes de repères pour calculer quelque chose qui se passe dans le premier système de repères où la lampe de poche ne bouge pas. Et on arrive au résultat étrange que la lampe de poche, grâce à cette comparaison entre l'énergie cinétique et le résultat de l'effet de Doppler, cette comparaison nous donne une quantité de masse qui a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Ok, l'ambilampe a perdu une masse, la masse perdue est de à cette valeur. Et Einstein voulait savoir, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ou, disons, il a d'abord fait une toute petite analogie, c'est-à-dire il s'est dit ça vaudrait dans le sens contraire, c'est-à-dire que s'il y avait deux rayons de lumière qui arrivaient en même temps et qui étaient absorbés par la lambilampe, alors la masse de l'ambilampe augmenterait exactement de la même façon. Ça, c'était la première analogie. Mais après cela, il s'est dit exactement ce que Banesh-Hoffmann a dit. Je vais vous rappeler maintenant. avec son instinct d'unité cosmique, il a dit que, en rouge, le fait que l'énergie dégagée par l'objet prenne une forme électromagnétique, c'est-à-dire des rayons de lumière, ne peut évidemment jouer aucun rôle dans la perte d'un peu de la masse du dit objet, ce qui veut dire qu'il propose maintenant que si un objet dégage de l'énergie, alors, dans tous les cas, que ce soit de la lumière ou de la chaleur ou du son ou quoi que ce soit, cet objet, en dégageant de l'énergie, perdra un peu de sa masse. Ça, c'était encore une fois l'instinct cosmique, c'était encore une fois la fournée, les croissants, c'est exactement la même idée. Il généralise par une sorte d'intuition. Et alors, voilà, alors c'est comme s'il se disait, OK, ce qui part, c'est les deux rayons de lumière. Ça veut dire que les rayons de lumière, eux aussi, ils ont de la masse. Parce que pour Einstein, comme pour tout le monde, la masse était toujours conservée. Ça voulait dire que si on pouvait peser les rayons de lumière, si on pouvait les mettre, si on pouvait, se mettre sur un camion ou quelque chose comme ça, et mesurer le poids de l'ambilampe et mesurer le poids de la situation entière, on verrait que le poids total ne changerait pas. Le poids de l'ambilampe diminuerait, ce qui voudrait dire que le reste de la masse était associé avec les rayons de lumière. Ce qui voulait dire que l'énergie portée de la masse et la masse de la lampe de poche pouvait libérer cette énergie, mais si on libérait l'énergie, on perdait un peu de la masse. Et alors ça, c'est ce qui exprime cette équation. Donc ça, c'était ce qu'il avait compris au début. Et maintenant, je vais vous donner une sorte de vision de cette situation. Personne ne savait, en 1905, personne ne savait si les atomes existaient. La plupart des physiciens croyaient aux atomes en 1905. En fait, Einstein lui-même avait fait une grande contribution en écrivant un autre article sur l'effet du mouvement brownien, mais je ne vais pas vous en parler. Mais il y avait toujours des sceptiques, il y avait des gens qui ne croyaient pas aux atomes. Et personne ne savait ce que c'était qu'un atome. Personne n'avait aucune idée de la forme d'un atome. Il n'y avait pas l'idée d'un noyau, des électrons qui entouraient le noyau. Personne ne savait. Mais, et donc, on ne savait pas quelle était la constitution d'un solide, par exemple. Mais Einstein s'était dit quand même qu'il pouvait imaginer un solide comme ça, où il y avait de l'énergie dans les vibrations d'un objet. Alors, ce type d'énergie, moi je vais l'appeler, ce n'est pas le terme qu'a utilisé Einstein, mais vous avez vu que Beneš Hoffman a parlé de deux types d'énergie. Deux types différents d'énergie. Alors moi, je vais faire cette distinction parce qu'au début, tout le monde croyait à cette distinction, y compris Einstein, en 1905. Il y avait deux types d'énergie. Alors, je vais les appeler masse grumeleuse et masse frétillante. Grumeleux, ça veut dire que c'est des particules, en fait, en quelque sorte. Ça veut dire que c'est des objets physiques qui ont de la masse. Mais Einstein avait démontré qu'il y avait une autre sorte de masse qui était associée à l'énergie et que la lampe de poche pouvait perdre un peu de son énergie frétillante. Pourquoi pas de sa masse grumeleuse? Parce que tout le monde savait que un atome ne changeait jamais sa masse. Un atome avait une masse précise et on ne perdait pas quand il y avait une lampe de poche dégageait un peu de lumière. Ce n'était pas comme si des atomes de la lampe de poche partaient. Les atomes restaient. Alors, ce n'était pas les atomes qui s'enfuyaient. C'était une autre sorte d'énergie. Tous les atomes restaient sur place. Et donc, la perte de masse devait être associée avec une perte d'énergie de cette vibration, c'est-à-dire perte de... Alors Einstein a dû inventer ce concept de deux types de masse que j'ai appelé masse grumeleuse, qui ne change pas, et masse frétillante, qui peut changer, masse associée avec de l'énergie. Et donc, ça, c'était en 1905. Ça, c'était comme il avait vu les choses. C'était comme maintenant, j'ai divisé ce, de façon abstraite, j'ai divisé le solide en ces deux types de masse, la masse frétillante en haut et la masse grumeleuse qui ne peut pas être touchée. C'est comme si on avait un compte bancaire et on peut toucher à ce compte bancaire, mais on a aussi des biens et on ne peut pas y toucher parce que ces biens sont des choses, on n'y pense pas. C'est pas argent liquide, mais le compte bancaire est liquide. Alors c'était comme s'il y avait cette différence entre l'argent liquide et l'argent en bien. Mais en fait, il a commencé à y penser plus profondément. Et étant donné qu'il savait qu'il y avait beaucoup de types d'énergie, il y avait plein de types d'énergie qu'on connaissait à l'époque, d'abord, il s'était dit, comme je vous ai dit là, certains types d'énergie ont de la masse. Il avait immédiatement généralisé par son instinct cosmique c'est ce que Banach-Hoffmann avait dit, son instinct cosmique. Il a dit, ça n'a rien à voir avec l'électromagnétisme, c'est n'importe quelle forme d'énergie a de la masse. Alors, après 2 ans de pensée, de réflexion, il est arrivé à la conclusion, certains types de masse ont de l'énergie. Alors, il a fait un saut vraiment périlleux ou téméraire. Il a dit, tous les types de masse ont de l'énergie, c'est-à-dire même la masse grumeleuse. Alors, on va regarder quelles étaient les pressions inconscientes qui auraient sous-tendu ce glissement. Alors, comme dit Banach-Hoffmann, je vous le lis encore une fois, pourquoi trancher nettement entre d'un côté le type de masse qui appartient intrinsèquement à un objet donné? Intrinsèquement, ça veut dire les particules, ça veut dire la masse grumeleuse. Et d'un autre côté, le type de masse qu'il perd quand il dégage de l'énergie, ça veut dire la masse frétillante. Faire ainsi serait imaginer, sans aucune motivation, 2 types de masse alors qu'un seul type suffirait. Une telle dichotomie serait inélégante et privée de toute défense logique. Alors, ça, c'est l'analogie qu'Einstein avait fait intuitivement. On peut essayer de comprendre pourquoi il avait été amené à cette analogie, pourquoi ça l'avait à la fin convaincu quand au début il n'y avait même pas pensé. C'est parce qu'au début il pense qu'un grumeau ne peut pas disparaître, tandis qu'un peu d'oscillation, on peut changer la quantité d'oscillation, on peut imaginer que la quantité d'oscillation peut diminuer ou augmenter. Alors c'est facile, c'est comme un compte bancaire liquide. Mais les biens, on ne peut pas accéder aux biens. Mais il s'est dit, non, il y a plusieurs types d'énergie. Il y a l'énergie potentielle, énergie cinétique. Peut-être que ça correspond aux 2 types de masse, masse grumeleuse et masse frétillante. Et en fait, on avait, c'était une des conséquences de cette idée, c'était même que l'énergie potentielle... de la masse. C'est-à-dire, si il y a cette boule, et si je lève cette boule, si je la pose sur une colline, alors elle a gagné de l'énergie, l'énergie potentielle qui est due à sa position par rapport à la Terre. Alors, ça veut dire que l'énergie potentielle que possède cette boule maintenant lui donne encore plus de masse. Bien sûr, ce n'est pas autant que j'ai indiqué, mais c'est juste pour donner une sorte d'indice. Ce n'est pas 101 kg, ce serait 100,000000000001 kg. Mais OK, l'idée, c'est la même chose. Et donc, Einstein a compris que si l'énergie potentielle a aussi de la masse. Alors, ça le libère, ça commence à libérer ses pensées, ça commence à lui donner l'idée que des choses très intuitives peuvent avoir lieu, qui ont à voir avec ces masses. Et puis, à la fin, alors, c'est ce qui s'est produit dans son esprit. Et je vais juste dire que, encore une fois, mais peut-être... je ne sais pas quand on a vu pour la première fois l'annihilation d'un électron avec son antiparticule, un anti-électron, c'est-à-dire un positron, peut-être dans les années 30, je ne sais pas quand, mais peut-être plus tard. Mais quand Dirac a découvert l'existence des antiparticules, ça menait à la possibilité qu'une particule, une antiparticule pourrait s'annihiler, se détruire et produire... de l'énergie dans la forme de rayons de lumière, de rayons gamma. Et alors, quand on a vu ce phénomène, ça a tout à fait confirmé l'idée que la masse grumeleuse, elle aussi, peut disparaître en créant de la masse frétillante. Et là, il y a toujours la masse frétillante, comprenez-vous. Ce n'est pas comme si la masse a fait disparu. La masse existe aussi ici. C'est si on pesait ces deux rayons de lumière, si on avait sur un camion, si on pouvait peser le tout, on verrait que la masse existe toujours. Eh bien, bon, je pense que je vais passer extrêmement rapidement à la relativité générale. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je veux juste vous donner un tout petit goût de la... relativité générale, je ne vais pas entrer dans les détails. Einstein lui-même a dit, je cite à la fin, la première partie est juste une paraphrase. Alors, l'idée qu'on puisse distinguer entre le mouvement à vitesse constante et le mouvement accéléré est, selon Einstein, aussi puérile que l'idée du centre du monde dans la philosophie d'Aristote. Il méprisait cette idée que la vitesse constante jouait un rôle important dans la physique. Il pensait que c'était très, très laid. Encore une fois, c'est son sens d'unité cosmique qui lui dit, non, ça, il y a quelque chose qui cloche, ça ne marche pas. Alors, il a cherché, il s'était dit que la gravitation, c'était... la gravitation était un peu comme les champs électriques et les champs magnétiques, parce que à chaque point dans l'espace, il y a une valeur de champ électrique ou de champ magnétique, c'est ce que veut dire un champ. C'est-à-dire à chaque point dans l'espace, il y a une valeur de cette quantité. C'est la même chose avec la gravitation. À chaque point dans l'espace, il y a une valeur de la force de la gravitation. Et alors, il y a là déjà une analogie. C'est la base d'une analogie. La gravitation, c'est comme l'électromagnétisme. Alors, s'il y a des équations pour les ondes électromagnétiques ou pour les champs magnétiques électriques, alors il doit y avoir aussi des équations pour ces champs qui varient dans le temps et dans l'espace. Mais il n'y avait aucune équation de ce type-là. Il y avait l'équation de Newton qui donnait la variation dans l'espace, mais pas dans le temps. Il n'y avait pas de... Par exemple, on ne pouvait pas y avoir, selon l'équation de Newton, il n'y avait pas de la possibilité d'avoir des ondes de gravitation. Et la gravitation ne se propageait pas, c'est-à-dire que la gravitation n'avait pas de vitesse. C'est comme si la gravitation avait une vitesse infinie, ce qui était ridicule. Et donc Einstein s'était dit qu'il doit y avoir une équation qui ressemble des équations qui ressemblent aux équations de Maxwell. Ça, c'était son sens d'analogie. Il a poursuivi ce but. Il a eu des échecs. Et à un moment donné, il s'est concentré sur le fait que la gravitation, selon Newton, est proportionnelle à la force due à la gravitation est proportionnelle à la masse de l'objet qui est attiré par, disons, par la Terre, alors la force de la gravitation sur mes lunettes est proportionnelle à leur masse. Et sur ce livre, alors si le rapport entre ces deux choses est de 20 ou 30, alors la force de la gravitation est 30 fois plus grande ici que ici, parce que la masse, c'est le rapport des masses. Alors ça, c'est une caractéristique de la gravitation. Et Einstein avait étudié la physique, la mécanique classique. Il savait qu'il y avait des forces qu'on appelait des forces fictives, comme les forces que l'on ressent quand on est dans un système de repères accéléré. C'est-à-dire, si on est sur un manège, par exemple, ou si on est dans une voiture qui accélère ou qui décélère, alors on peut sentir des forces. Ce sont des forces soi-disant fictives, mais en tout cas, ces forces-là sont toujours proportionnelles à la masse de l'objet. Et il a regardé cette idée, il s'est dit, tiens, je me demande si la gravitation n'est pas vraiment une force fictive. Ou encore une fois, vous voyez une analogie, il essaie de rapprocher deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Alors, il étudie une situation où il y a un champ gravitationnel. Disons qu'on est tout près de la Terre. Alors, c'est la gravitation que nous connaissons tous, la gravitation de la Terre qui existe dans tous les points de l'espace. Dans tous les points de l'espace, il y a un champ gravitationnel. Et alors, maintenant, il considère une pièce, il l'appelle un ascenseur, et cet ascenseur tombe. Et alors, il y a deux enfants dedans qui jouaient à la balle, mais on a laissé tomber l'ascenseur, on a coupé le câble. Alors maintenant, tout tombe. Et maintenant, avant que l'ascenseur n'arrive sur Terre, alors qu'est-ce qui se passe là-dedans? Les enfants ne ressentent plus de force, c'est-à-dire il n'y a plus de gravitation. Tout le monde connaît cet effet parce que maintenant tout le monde a vu qu'il y a ce qu'on appelle l'état d'apesanteur. Quand un avion plonge, par exemple, dans un état de chute libre, alors il n'y a plus de... En effet, on a l'impression qu'il n'y a plus de gravitation. Alors c'est comme si si on ne savait pas qu'on tombait, les enfants penseraient qu'il n'y a pas de champ gravitationnel. Ils vivent dans un monde, nous voyons, parce que pour nous, ils sont dans le champ gravitationnel de la Terre. Il y a de la gravitation. À chaque point, il y a de la gravitation. Il y a une quantité de gravité ou une quantité de gravitation, un champ gravitationnel à tout point dans l'espace. Mais pour les enfants qui tombent dans un autre système de repères qui accélère parce que ça va toujours plus vite, dans ce système de repères, il n'y a plus de force gravitationnelle. Ça a disparu. C'est comme le cas des champs électriques et des champs magnétiques qui, vus d'un autre système de repères, on peut entrer dans un autre système de repères où dans un système il y a un champ électrique et dans un autre système il n'y en a pas. Alors là, on a le même phénomène, exactement le même phénomène, une analogie très très forte qui commence à se faire voir. Et en fait, l'autre face de la médaille, Einstein il a attaché à cet ascenseur une fusée qui accélère, alors que ça monte. Et ça toujours plus vite. Et maintenant, les enfants peuvent jouer à la balle exactement comme s'ils étaient sur terre ferme. Mais là, je n'ai pas mentionné, mais c'est maintenant ils sont dans l'espace vide. Ils ne sont plus près de la Terre. Maintenant, ils sont dans l'espace vide. Alors, il n'y a pas de champ gravitationnel qui les entoure, à chaque point de l'espace où ils... À chaque point de l'espace, il n'y a aucun champ gravitationnel, zéro. Espace vide. Mais maintenant, à cause de la fusée, les enfants ont l'impression de vivre dans un monde où il y a un champ gravitationnel. Encore une fois, on voit que grâce à l'accélération, il y a ce qu'on pourrait, on serait sûr que c'est un vrai champ gravitationnel. Alors, ce qu'il avait découvert, c'est que, maintenant, si ça marche, la gravité, outil, non, ça ne marche pas. Comment ça marchait l'autre fois? Je veux tourner. Affichage. Ah, rotation. Bon, OK, on va essayer. Non. Comment ça marche? Rotation. Ah oui, il faut faire comme ça. Horaire, OK, essayons, je ne sais pas. Oui, encore une fois. Rotation, horaire, encore une fois. Voilà. Il avait découvert que l'autre face de la médaille de la gravitation, c'était l'accélération. Alors, ces deux choses sont en quelque sorte interchangeables. Et encore un ambigramme. Alors, je ne vais pas vous parler du reste. Je vais juste vous dire qu'il a étudié aussi cet effet maintenant dans un autre système qui peut accélérer, c'est-à-dire un disque qui tourne. Et là aussi, il avait étudié la même idée. Il avait fait un autre rapprochement. Il avait vu, et je ne peux pas entrer dans les détails, que là, dans un système qui tourne, certaines longueurs changent grâce à la contraction de Lorentz et Fitzgerald. Certaines longueurs changent et d'autres longueurs ne changent pas, ce qui donne pour effet que le rapport entre la circonférence du disque et le rayon du disque n'est plus pi. Ce qui veut dire que ce n'est pas pi. Si ce n'est pas pi, alors ce n'est pas la géométrie euclidienne que nous connaissons. Et Einstein avait déjà étudié à ETH, à Zurich, il avait déjà étudié la géométrie non euclidienne et il s'est dit, alors dans ce cas-là, ça doit avoir avec une géométrie non euclidienne, ce qui veut dire que je peux importer ce type de mathématiques, ce type sophistiqué de mathématiques dans la physique. Et il a pu expliquer beaucoup de choses. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais là aussi, c'est une analogie entre le disque tournant et la géométrie non euclidienne. Et alors, pour finir, je vais vous donner un petit tableau qui résume beaucoup d'analogies en même temps entre... on va regarder ça. Regardons juste la colonne à gauche. Principe de la relativité restreinte. Alors, on peut distinguer entre un système de repères qui est au repos et un système qui est en mouvement. Alors là, on fait déjà des analogies entre deux systèmes et on dit que les mêmes lois de la physique valent dans les deux systèmes de repères. Alors là, on fait déjà une analogie. Ou en mouvement veut dire qui se déplace à une vitesse constante et puis à l'aide d'expériences mécaniques et optiques et électrodynamiques et thermodynamiques, etc. Alors là, c'est toute l'analogie de la fournée, des croissants et tout ça. Alors ça, c'est des analogies, ça, c'est des analogies. Mais maintenant, on généralise le tout pour arriver à quelque chose de beaucoup, beaucoup plus général. Alors, il y a une grande analogie entre ces petites analogies dans la colonne gauche et des analogies dans la colonne droite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on ne peut distinguer entre un système de repères plongé dans un champ gravitationnel et un système en état d'accélération. Une analogie absolument inouïe et géniale, incroyable, intuitive, sur laquelle il s'est tombé d'une façon qui sait comment, parce qu'il avait fait ce rapprochement entre les forces fictives et le simple fait que la gravitation est proportionnelle à la masse. Et puis, ou en état d'accélération, veut dire qui se déplace de n'importe quelle façon, et puis à l'aide d'expériences mécaniques et optiques, électrodynamiques et thermodynamiques, etc. Encore une fois, c'est la même analogie qui qui vaut dans la relativité générale. Alors, analogie entre les deux colonnes et plein d'analogies dans chaque colonne. Et ça, c'est les racines de la relativité générale. Alors, je vais arrêter là, j'ai pris trop de temps, mais vous comprenez que ce qu'a fait Einstein a été absolument envahi d'analogies et d'instincts cosmiques. Merci.